Armement. Dès la plus haute antiquité, le feu a été l'un des moyens d'attaque en usage durant la guerre. Chaque belligérant s'ingéniant à trouver des mélanges inflammables capables d'être projetés sur l'ennemi à l'aide de flèches ou de machines et susceptibles de lui causer les plus grands dégâts. L'utilisation de l'huile et la poix bouillante dans les guerres moyenâgeuses pour la prise ou la défense des châteaux forts en témoignent. En Orient, les mélanges incendiaires avaient reçu un développement extraordinaire bien avant l'expédition d'Alexandre. Il faudra attendre le 7e siècle pour qu'ils soient introduits en Europe. Les Grecs du Bas-Empire les développèrent et mirent au point un mélange désigné sous le nom de feu grégeois. Ce terrible mélange, qui fut décisif dans bien des batailles, fut mis au rang des secrets d'État par Constantin VII, 913 à 959. Le feu grégeois fut grandement développé dans la guerre maritime pour éviter au mieux les combats résultant des abordages, mais il ne fut pas pour autant négligé dans les combats terrestres où on l'utilisait pour l'attaque des forteresses ou la destruction des ouvrages des assiégeants. Ce dossier est consacré à l'histoire de l'évolution des armes à feu portatives. Il comporte 6 chapitres. Premier chapitre, le feu pour armes. Deuxième chapitre, des armes pour le feu. Troisième chapitre, principes fondamentaux. Quatrième chapitre, premières armes portatives. Cinquième chapitre, le chargement par la bouche. Sixième chapitre, le chargement par la culasse. Premier chapitre.
Le feu pour armes. Les mélanges incendiaires.
Après la prise de Constantinople par les croisés en 1204, la connaissance du feu grégeois se répandit chez les Arabes. Ces mélanges subirent alors un perfectionnement fondamental, avec l'introduction du salpêtre dans ces préparations. Les Arabes qui avaient mesuré tout l'intérêt de ces mélanges incendiaires, les utilisèrent comme principal moyen d'attaque. Ils inventèrent de nombreux projectiles remplis de ces mélanges et les machines leur permettant de les lancer sur l'ennemi. Ce feu fut principalement dirigé contre les croisés qui menaient d'incessantes irruptions sur leur sol. Habitués au seul combat du fer contre fer, ces moyens de combat semaient l'épouvante dans les rangs des croisés, mais n'étaient pas à l'origine de réels effets meurtriers. Jusqu'ici, le salpêtre que les Arabes introduisaient dans leurs préparations n'était pas assez pur pour créer un effet détonnant. Ils ne l'employaient que pour activer la combustion de leur mélange. Les progrès que firent les chimistes arabes leur permirent au XIIIe siècle de purifier le salpêtre et d'obtenir un produit débarrassé des matières non combustibles. La recherche en ce domaine les conduira à trouver que certains mélanges à base de salpêtre, de charbon et de soufre présentaient des propriétés explosives. Cette découverte qui devait peser d'un si grand poids dans les destinées du monde fut naturellement introduite en Europe pendant le Moyen Âge, lorsque l'Espagne était occupée et administrée par les Arabes. Elle sera vraiment utilisée lorsque le salpêtre pourra être produit en grande quantité. Ainsi, l'art de lancer au loin des projectiles grâce à des mélanges explosifs ne se développera que vers la moitié du XIVe siècle. Le feu est le souffle de la poudre enflammée, ayant la particularité de se propager dans toutes les directions depuis son point d'origine, il fallut inventer des systèmes pour canaliser cette force et la diriger dans une seule direction. Le tube offrit la meilleure solution. L'énergie produite par les frondes et autres armes de jet était désormais remplacée par celle résultant de la combustion de la poudre. L'artillerie à feu prit alors naissance en Europe et remplaça peu à peu les catapultes et autres machines à frondes.
Les balbutiements des arts mécaniques.
L'introduction progressive de la poudre dans les guerres fut l'époque du changement des armes. Avant son utilisation, la catapulte tenait lieu de mortier, la baliste du canon, la pique de la baïonnette. L'utilisation de ces nouvelles armes modifia profondément les dispositions générales et particulières qu'elle avait eues jusqu'alors dans la manière de combattre. Le feu et le sabre devinrent les forces agissantes, mais peu à peu le feu devait décider de l'issue des batailles. Avec la constitution d'unités spécialisées utilisant ce type d'armement, ce furent toutes les tactiques de guerre qu'il fallut revoir et adapter. Cette mutation fut lente et se développa au rythme des inventions. La poudre préparée au XIVe siècle était extrêmement imparfaite. On l'obtenait et on l'utilisait sous forme de poussière, état qui lui faisait perdre une grande partie de sa puissance, en outre le salpêtre qui servait à sa fabrication était fort impur. Ces deux inconvénients avaient pour conséquence de produire une explosion progressive qui ne pouvait pas imprimer au projectile une vitesse assez grande pour percer les cuirasses et les armures métalliques en usage à cette époque. Aussi, durant le XIVe siècle, les projectiles lancés par les bouches à feu ne furent que très rarement dirigés contre les hommes qui continuaient à porter l'armure. Cet armement servait surtout à lancer de grosses pierres qui, par leur chute, écrasaient les édifices et ruinaient les défenses extérieures des places. La découverte de la poudre à canon ne fit pas complètement abandonner l'emploi des mélanges incendiaires et l'on se servit de ces bouches à feu pour jeter à l'ennemi le feu grégeoisé et diverses compositions incendiaires. L'étymologie des noms qui furent attribués à toutes les armes à feu est assez imprécise en varie suivant les auteurs. La course à l'armement que se livraient les nations européennes contribua à la formation de ces noms qui étaient en usage dans ces pays et qui par brassage, retranscription et adaptation formèrent les mots actuellement employés. On peut à ce sujet citer le mot canon. Selon les uns, canon dériverait du mot allemand can qui signifie un pot, en référence à la similitude des formes de ces bouches à feu primitives, assez grosses et courtes, avec une ouverture très large à l'image de ce type de récipient. Selon d'autres auteurs, canon ferait référence au mot latin cana, la canne, le roseau, que l'on attribua aux pièces d'artillerie qui succédèrent aux bouches à feu primitives appelées en France bombardes, lorsqu'on rallongea le tube de ces armes. L'usage de la poudre à canon fut introduit en France vers 1330. Sous Philippe VI de Valois, apparurent alors les premiers canons, mais leur mise au point se heurtèrent à deux problèmes importants. Le premier concernait la poudre avec laquelle il fallut se familiariser pour ensuite en maîtriser les effets. Le second concernait l'art métallurgique, qui faute d'expérience, ne produisait que des pièces très imparfaites, tant dans leur forme que dans leur fabrication. Ces engins étaient le plus souvent réalisés en deux parties comme les veuglères composés d'une chambre à feu et d'une volée, simple tube de fer ouvert à ses deux bouts et recouvert de bois maintenu par sa clige métallique. Le chargement s'effectuait alors par la culasse, mais ce procédé fut très vite abandonné à cause des fuites de gaz dues à une obturation incomplète, de l'insécurité que ces engins présentaient, et surtout de l'impossibilité de remédier à ces défauts avec les procédés mécaniques imparfaits de l'époque. Les armes furent alors chargées par la bouche,